Bonjour à chacun. Et beaucoup de choses que nous avons dites ce matin, que nous avons priées, que nous avons chantées, eh bien, convergent vers la thématique de cette prédication qui est la grâce. Mais avant la prédication, j'aimerais vous faire faire un échauffement. C'est important de faire un échauffement avant de réfléchir, justement. Et j'aimerais vous faire une expérience de pensée. Et en science, une expérience de pensée, c'est une expérience que l'on ne peut pas réaliser techniquement parce que ce n'est pas possible et on est obligé de l'imaginer. Et l'expérience de pensée que j'aimerais vous faire faire est imaginez que vous mettiez la totalité du système solaire sur une balance. D'après vous, quel est le pourcentage de la masse du Soleil? Eh bien, la masse totale du système solaire serait... Non, je vais la refaire différemment. Les belles marquises, vos beaux yeux d'amour mourir me font, c'est toujours ça. Si je mettais donc la totalité du système solaire, ça, d'après vous, le Soleil représenterait quel pourcentage de la totalité de la masse du système solaire? Voilà. Allez-y, prenez un risque. J'ai réussi à le dire maintenant. Voilà, c'était mon échauffement à moi. Voilà. Quel pourcentage la masse du Soleil représenterait dans la totalité du système solaire? Allez, deux propositions, puis après j'attaque. 99, moins de 1%. Il va falloir négocier. Hein. Je ne pense pas que j'aurai tout le temps pour négocier et vous mettre d'accord. Effectivement, la réponse exacte est 99,86%. C'est fou, hein? Totalité de la masse solaire eh bien, représente 99,86% de la masse totale du système solaire. Voilà, déjà, vous ne regrettez pas d'être venu, d'avoir appris ça. Ouais, c'est cool. Et si je vous parle de ça, c'est que finalement, la grâce, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous voyez, le soleil est énorme, le soleil est vital pour nos vies, pour la vie sur la Terre. Et puis, on vit comme ça, on ne se le dit pas tous les jours, quoi. Et pourtant, vous voyez la masse que ça représente. Et la grâce, c'est un peu pareil dans notre vie de foi. C'est-à-dire que la grâce, elle est centrale. La grâce, elle est essentielle dans notre spiritualité. Et pourtant, eh bien, il y a des jours où je passe à côté, quoi. Et j'oublie que la grâce, combien elle est essentielle pour nos vies. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous parlais du soleil. Et alors, la prédication de ce matin est une modeste contribution, justement, à ce qui est la grâce pour nous. Parce que quand certains d'entre nous ont prié, ont lu des versets, je me disais « Ah !» J'aurais bien aimé parler de ça aussi. Ah, j'aurais bien aimé parler de ça aussi. La grâce, c'est un sujet extrêmement vaste et, comme je vous l'ai dit, qui est essentiel. Donc, vous voyez ma prédication comme une modeste contribution à cette réflexion, à la méditation de ce qu'est la grâce. Et pour réfléchir justement sur le sujet de la grâce, je vous propose de prendre les 10 premiers versets du chapitre 2 d'Éphésiens. Voilà, Éphésiens 2, les 10 premiers versets. Et j'ai mis le dessin, alors on ne voit pas très bien, le tableau de Rembrandt qui représente... Le fils prodigue. Alors, on ne va pas parler du fils prodigue. Il y a quelques mois, Stéphane a fait une prédication sur cette parabole et je vous encourage à l'écouter. Mais le fils prodigue est une magnifique illustration de ce qu'est la grâce. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce tableau de Rembrandt. Voilà, je vous propose de lire les 10 premiers versets d'Éphésiens. Et donc, c'est Paul qui parle. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et je vous propose de parcourir ce texte. Et ce texte m'a permis d'avoir trois grandes parties, trois grandes réflexions. Et la première partie porte sur simplement les trois premiers versets. C'est là où je prends le relais. Voilà, les trois premiers versets. Et la question que je vous pose, au fond, c'est, je nous pose, c'est gracier de quoi ? Pardonner de quoi ? Et Paul, en début de ce texte, eh bien, tout de suite nous dit notre condition de pécheur. Nous étions morts à cause de nos fautes. Et s'il en parle au passé, eh bien, c'est parce qu'il s'adresse à des chrétiens, à des personnes converties. Et il aurait pu dire, avant votre conversion, eh bien, vous étiez morts à cause de vos fautes. Voilà, le décor est planté, le message est clair et ça caractérise pleinement la nature de l'homme. Nous sommes pécheurs. Et cette situation ne date pas d'hier, puisque ça remonte à l'aube de l'humanité, comme on dit, au temps d'Adam et Ève. Et l'histoire commence justement au tout début du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, où Dieu justement vient de créer l'homme qu'il a placé dans un jardin. Il le place dans un jardin et puis il y donne quelques règles, et une règle fondamentale. Et quelque part, il lui donne le règlement intérieur du fonctionnement du jardin, et il lui donne cette règle fondamentale que l'on peut lire dans Genèse 2, verset 16. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et ici, par ce verset, on apprend deux choses. D'abord, on apprend que Dieu interdit à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on apprend aussi une deuxième chose que l'on oublie un peu parfois, eh bien que l'homme a été créé libre et responsable. C'est-à-dire que Dieu aurait tout à fait pu mettre une clôture infranchissable autour de cet arbre, ou il aurait même pu tout simplement ne pas mettre l'arbre dans le jardin, ça aurait été plus simple. Mais non, en fait, Dieu a créé l'homme responsable, c'est-à-dire que le fruit est interdit et accessible. Ça peut paraître curieux, mais le fruit est interdit et accessible. Et encore une fois, l'homme a été créé responsable et libre de ses choix. Ensuite, Dieu crée la femme. Donc l'homme et la femme sont dans le jardin, tous les deux, et arrive un troisième personnage, en plus de Dieu si je puis dire, arrive le serpent. Et le serpent est là pour semer le doute dans la tête de l'homme. Genèse 3, verset 1. Voilà, je prends un peu d'avance. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ? Alors la femme lui répond et elle lui dit que Dieu a interdit de manger l'arbre des fruits de l'arbre de la connaissance, et que s'ils en mangeaient, ils mourraient. Le serpent, à son tour, répond à la femme. C'est là où j'avais pris un petit peu d'avance. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et c'est là que les problèmes commencent, parce que vous connaissez l'histoire. La femme et l'homme écoutent le serpent, mangent du fruit que Dieu avait défendu. Et par cette opposition à Dieu, quelque part, Adam et Ève se placent à la hauteur de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 4, « Vous serez comme Dieu ». Ils se placent à leur niveau, au niveau de l'autorité aussi de Dieu, et quelque part, ils contestent l'autorité. Et c'est le principe même de la rébellion. Être rebelle, c'est contester une autorité. Et le comportement d'Adam et Ève nous amène à la définition du péché, à une définition du péché, qui est le péché peut être défini comme le fait de s'opposer à Dieu. J'essaye de synchroniser les deux. Donc le péché est le fait de, enfin on peut le définir comme le fait de s'opposer à Dieu. Et la conséquence d'avoir désobéi à Dieu, de s'être opposé à Dieu, on peut le lire au verset 23, Genèse 3, verset 23. Ainsi l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden, le chassa, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Et nous, hommes et femmes du XXIe siècle, avons quelque part hérité des conséquences du choix d'Adam et Ève. Cette situation perdure depuis le début de l'humanité. Depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, l'homme vit séparé de Dieu. Et nous avons un deuxième héritage d'Adam et Ève, c'est que notre nature est de s'opposer à Dieu, c'est-à-dire d'être d'une nature, d'être des pécheurs. Et la conséquence est lourde pour nous, parce que la conséquence est d'être mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Et l'opposition d'Adam et Ève, que l'on appelle au fond le péché originel, c'est ce qui a contaminé toute la création. Par sa nature rebelle, l'homme a voulu s'élever au rang de Dieu. Et le péché est venu comme un mur entre nous et Dieu, un mur infranchissable. Et la conséquence, encore une fois, est la mort spirituelle et d'être séparé de Dieu. Alors, au début de l'Ancien Testament, Dieu recommence à renouer des liens avec les hommes, et particulièrement avec le peuple d'Israël, et il rend à nouveau possible la relation avec Dieu, mais au prix de lois, du respect de lois difficiles à suivre. Les péchés peuvent être pardonnés, mais au prix de sacrifices, sacrifices d'animaux. Et même pour entrer dans la présence de Dieu, eh bien, seuls les prêtres, voire même leur chef, le grand prêtre, seulement lui avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et là aussi, il fallait à nouveau faire des sacrifices d'animaux. Et cette possibilité d'être pardonné, donc, que l'on voit dans l'Ancien Testament, eh bien, ne résout pas le problème, parce que certes, les Hébreux à l'époque pouvaient être pardonnés de leurs péchés, mais ne résolvaient pas le problème profond de l'homme, qui est que sa nature est pécheresse. Et la nature de l'homme, eh bien, reste de s'opposer à Dieu, d'être des pécheurs et d'être mort spirituellement. Alors, je vous propose de relire les trois premiers versets que l'on a lus tout à l'heure, à la lumière justement de ce que l'on a entendu, ce que je vous ai dit là sur la Genèse et sur la situation d'Adam et Ève. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. » Et là, il parle du serpent, il parle de Satan. Vous voyez, ça aurait pu être dit d'Adam et Ève, et ça peut être dit aussi pour nous aujourd'hui. Donc, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, et nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, d'être pécheurs, d'être opposés à Dieu, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres, c'est-à-dire séparés de Dieu. Et encore une fois, notre nature profonde, eh bien, est d'être opposés à Dieu, d'être des rebelles, d'être des pécheurs. Et la conséquence, et encore une fois, la mort spirituelle et d'être séparé de Dieu. En fait, on est comme des fleurs coupées. Là aussi, c'est une autre expérience de pensée que je vous propose. Nous sommes comme des fleurs coupées. Et certains sont magnifiques, ces fleurs coupées. Elles sont parfumées, elles sont belles à regarder. Mais on sait bien qu'elles sont coupées de leurs racines. Et le fait d'être dans des vases, eh bien, elles sont déjà mortes, en fait. Ce sont des fleurs bientôt fanées. Et nous, on est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire... Avant de se rattacher à Christ, eh bien, on peut faire de belles œuvres, on peut avoir de bons comportements, de belles personnes, mais finalement, nous ne sommes que des fleurs coupées et on ne se rend pas compte, eh bien, que l'on est mort spirituellement. Et heureusement, l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là, et c'est là où j'aborde la deuxième partie, à partir du verset 4 à 8. Mais Dieu est riche en compassion. Mais Dieu est riche en compassion. Ayons bien en tête ce que l'on a dit précédemment, l'homme et la femme ont été chassés du jardin, ils ont été séparés de la présence de Dieu, destinés à la colère, mais Dieu est riche en compassion. Et ça, ce sont 6 mots qui nous sauvent, 6 mots qui changent notre vie. Mais Dieu est riche en compassion. Et les versets 4 et 5 sont 2 versets qui sont fondamentaux, qui sont magnifiques, parce qu'il y a un aller-retour entre la compassion de Dieu et notre état d'homme et de femme spirituellement mort. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, oui, entre Dieu et nous. Nous étions morts, il nous a rendus à la vie, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et vous voyez cet aller-retour entre Dieu, riche de compassion, et nous, notre état de mort. Nous étions morts, je l'ai dit. Et Dieu le Père, par sa volonté, par le sacrifice aussi de Jésus-Christ, eh bien, nous a rendus à la vie. Et nous ne sommes plus des fleurs coupées, justement, mais nous sommes des fleurs irriguées par la sève de la vie. Je suis sauvé, je suis sauvé. C'est-à-dire que je ne suis plus destiné à la colère de Dieu, destiné à être coupé de sa présence. Nous avons été créés pour vivre, dès le départ, Adam et Ève ont été créés pour vivre dans la présence de Dieu, en intimité avec lui. Et le fait d'être séparé de Dieu, eh bien, est le grand drame de l'humanité, le grand drame de la vie des hommes. Comme si nous avions été, attention, c'est la troisième expérience de pensée, comme si nous avions été créés poissons, voyez, et qu'on a été obligés, eh bien, de vivre sur la terre ferme. Ce n'est pas notre élément naturel. Alors, tout se passe comme si nous avons recréé des aquariums sur la terre pour pouvoir vivre, malgré tout. Nous sommes des poissons dans leur bocal, et dans lequel nous nageons, effectivement, pour survivre, parce que ce n'est pas notre environnement naturel. Et nous avons tous les hommes ont la nostalgie de la pleine mer, la nostalgie de la relation, de l'intimité de la vie avec Dieu. Mais Dieu est riche en compassion. Et il nous permet à nouveau de vivre dans notre élément en communion avec lui. J'allais l'oublier. Et parfois, nous, chrétiens, eh bien, nous oublions que nous ne vivons plus justement dans un bocal, que nous sommes en pleine mer et nous comportons justement comme si nous étions encore dans ce bocal. En fait, on n'a pas complètement retrouvé la pleine mer. Je crois qu'on retrouvera la pleine mer justement le jour où on sera vraiment en présence du Père. Mais notre bocal, quand même, s'est considérablement agrandi. C'est comme si on vivait dans un grand aquarium. Et c'est déjà un avant-goût, si je puis dire, de la pleine mer. C'est pas tout à fait la pleine mer, mais c'est déjà pas mal. C'est un bel aquarium. Et on est passé justement du bocal, en se convertissant du bocal, à l'aquarium géant. Alors, on évolue dans un aquarium géant. J'imagine que cette phrase sortie du contexte ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez ce que je veux dire. On évolue dans un aquarium géant. Et certains chrétiens ne se sont pas rendus compte, justement, qu'on vit dans un aquarium géant et qu'on continue de vivre dans un bocal. Sans se rendre compte que des barrières sont tombées, sans se rendre compte que des libertés nouvelles s'offraient à nous. Parce que dès notre conversion, nous pouvons, justement, être en lien direct avec le Père. Et reconnaissons que ce n'est pas facile non plus de prendre conscience de toute la richesse, de toute l'étendue de la grâce. Ce n'est pas facile. Et il y a deux points particulièrement sur lesquels je voudrais mettre l'accent, deux éléments que nos esprits humains limités ont du mal à saisir justement la totalité de la grâce. Et ça nous empêche de profiter pleinement de notre liberté nouvelle, de profiter pleinement de la grâce. Le premier point, c'est que Jésus est mort et ressuscité, et je suivrai son chemin vers le Père. Et ce qui est difficile à comprendre, et ce qui dépasse notre esprit, c'est qu'en tant que chrétien, j'ai déjà parcouru ce chemin. C'est ce qu'il est dit au verset 6. Il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et vous avez remarqué, cette phrase est exprimée au passé. Et ça, c'est un premier élément qui est difficile à concevoir. Parce que justement, encore une fois, on est limité par notre esprit. Je suis spirituellement déjà mort et ressuscité. Et ça, c'est un message fort de l'Évangile. Nous sommes spirituellement morts et ressuscités. Mais c'est tellement difficile à concevoir que j'ai du mal à me l'approprier. Je suis ressuscité et je suis déjà assis dans les lieux célestes. Je suis bénéficiaire de la vie éternelle, car spirituellement, je suis mort et ressuscité. Je ne suis plus une fleur coupée, mais une fleur plantée justement dans la terre divine. Et la vie éternelle ne commence pas après ma mort physique, mais la vie éternelle, j'en suis déjà bénéficiaire. Je suis au bénéfice déjà de la vie éternelle. Parce que je suis uni à Christ. Je suis uni à Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et si je peux affirmer ça, dire que je suis ressuscité et assis avec lui dans les lieux célestes, c'est parce que justement, je suis uni à Christ. C'est vrai que je ne suis pas encore physiquement assis dans les lieux célestes, mais spirituellement, je le suis déjà. Et c'est ça, encore une fois, qui est difficile à concevoir. Et dans mon image piscicole de poisson, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est la distinction entre l'aquarium géant et la pleine mer. On n'est pas encore dans la pleine mer, mais c'est déjà pas mal. On a un bel aquarium. Et oui, je m'arrête un instant sur l'image d'être assis dans les lieux célestes, comme dit le texte. Et je trouve que c'est une image qui s'oppose à celle d'Adam et Ève, qui ont été chassés, chassés du jardin, donc en mouvement. Et là, le Seigneur, le texte nous dit, vous êtes assis dans les lieux célestes. Et non seulement je peux réintégrer la présence de Dieu, mais en plus, vous voyez, je peux m'installer, me poser, comme disent les ados. Vous voyez, je peux rester dans la présence de Dieu. Il y a un deuxième point qui est difficile à comprendre aussi par nos esprits humains, c'est qu'en Christ, nous sommes irréprochables. En Christ, nous sommes irréprochables. Et c'est une lecture d'ailleurs que Cécile a faite ce matin. C'est le deuxième élément qui est difficile à comprendre, parce qu'on a du mal à le saisir. Nous ne sommes pas, je crois, assez conscients qu'en Christ, nous sommes irréprochables. Et c'est vrai que dit comme ça, ça fait bizarre d'être irréprochable. Si je vous posais la question, est-ce que tu as l'impression d'être irréprochable ? Aucun me dirait, si, moi ça va, tout va bien, je suis irréprochable. Mais il y a deux mots qui ne sont pas magiques, mais essentiels, c'est « en Christ ». En Christ, je suis irréprochable. En Christ, je suis parfait. En Christ, je suis saint. Et on peut trouver d'autres qualificatifs comme ça qui nous décrivent dans le Nouveau Testament. Des qualificatifs qui sont aussi élogieux. Et presque paraître prétentieux, comment on pourrait dire qu'on est irréprochable ? Et tout ça, je suis saint, je suis irréprochable, je suis parfait, je le suis aux yeux de Dieu. Parce que je suis en Christ, je suis uni en Christ. Et c'est mon identité nouvelle, c'est ça que ça veut dire. Je suis un homme, une femme nouvelle, un chrétien nouveau, uni en Christ. C'est ce qui est dit dans Colossiens 3, verset 3. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ma vie est cachée en Dieu avec Christ. Christ est parfait, Christ est saint, Christ est irréprochable. C'est sa nature. C'est sa nature parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est normal qu'il soit saint. Et dans la mesure où moi, je suis uni en Christ, eh bien sa nature déteint sur moi et me permet justement d'acquérir cette perfection et m'autorise à être en présence de Dieu et même à être caché en Dieu. C'est la Libo, ce verset, être caché en Dieu, hein, comme dit ce verset. Et voyez dans le passage d'Éphésiens combien le rôle de Christ est essentiel. Avec Christ, nous sommes saints. Avec Christ, nous sommes parfaits. Avec Christ, nous sommes libres. Et d'une manière générale, avec Christ, nous sommes irréprochables. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, humainement, on est loin d'être irréprochables. Notre nature est d'être pécheur, comme Adam et Ève. Mais unis en Christ, avec Christ, nous devenons irréprochables. Et c'est ma nouvelle identité d'homme nouveau. Je cite Paul encore dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et effectivement, je me sens ni saint, ni parfait, et je n'ai pas du tout l'impression de ressembler à la description élogieuse qui est faite de moi dans le Nouveau Testament. Et pourtant, cette idée est essentielle pour notre foi, essentielle à appréhender. Nous sommes saints, parfaits en Christ. Et pensez-vous qu'on pourrait être assis dans les lieux célestes si nous n'étions pas saints, si Dieu ne nous rendait pas dignes de pouvoir être dans sa présence? Nos lointains ancêtres, Adam et Ève, ont été chassés de la présence de Dieu. Dans la mesure où nous sommes unis à Christ, eh bien, nous pouvons réintégrer sa présence. Et de manière plus concrète, est-ce que vous pensez que Dieu aurait écouté d'une oreille attentive et aimante nos chants, nos prières ce matin, si nous n'étions pas saints dès maintenant? Non, en Christ, nous sommes tout ça. En étant unis en Christ, ma nature a changé. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, eh bien, il fallait faire des sacrifices d'animaux pour être pardonné de ses péchés. Ça ne réglait pas le problème de fond, que le fait que la nature de l'homme est d'être pécheur. Le sacrifice de Jésus sur la croix règle le problème une fois pour toutes, car il me permet d'être uni en lui. Et il n'y a que Christ qui permet ça. Et cette union me permet de changer de nature. Je ne suis plus pécheur aux yeux de Dieu, mais saint, digne d'être réintégré dans sa présence. Et c'est pour ça qu'on dit que le sacrifice de Jésus est le sacrifice parfait, parce qu'il me permet, en étant uni à lui, eh bien, de changer profondément ma nature. Et c'est vrai que c'est une difficulté à appréhender ça, c'est tellement complexe. Alors je vous propose de réfléchir à quelques freins qui nous empêchent justement de rentrer pleinement dans la grâce. Et c'est de comprendre pourquoi nous avons justement du mal à se l'approprier. Je crois que j'ai affiché déjà les trois freins, c'est l'habitude. Ça fait des années que j'entends le discours de la grâce. Ça fait des années. Et vous voyez, c'est comme une petite musique d'ambiance que j'oublie au fond. Comme le soleil qui est là, que j'oublie. Alors je me rends compte l'été quand je suis sur la plage et je suis content que le soleil soit là. Mais dans la vie de tous les jours, je l'oublie. Et la grâce, c'est un peu pareil. J'oublie combien je suis gracié. C'est une habitude parce que j'ai cette habitude-là. Un autre frein que je peux avoir, ça me paraît trop facile. C'est pas possible. C'est trop facile. Il suffit que je vienne vers Dieu, que je lui demande pardon et je suis gracié. C'est pas possible. Je dois avoir un sacrifice à faire, quelque chose à payer. Non. Voilà, ça peut me paraître trop facile et d'être un frein pour saisir pleinement la grâce. Un troisième frein, c'est que ça me paraît justement trop énorme. Moi, gracié, par rapport à l'image que j'ai de moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible que le Seigneur se soit intéressé à moi, que le Créateur de Dieu, le Créateur de l'univers s'intéresse à moi. C'est trop énorme. Et vous voyez, je crois que ce sont trois freins, il en a d'autres. Et je crois qu'on a chacun nos freins personnels. Et c'est important de les identifier, les nommer. Au fond, quel est mon frein, quels sont mes freins personnels à saisir pleinement la grâce? Parce que je crois que ces freins-là, eh bien, ces freins sont des leviers entre les mains du prince de la puissance de l'air, comme il est dit dans Éphésiens 2, pour nous empêcher l'action de Dieu dans notre vie, de saisir pleinement la grâce. Et c'est pour ça que je crois que c'est important de les identifier. Et si je reprends l'image du poisson, eh bien, ces freins me poussent à avoir l'impression d'être encore dans un bocal et de tourner en rond, alors que mon espace de liberté est bien plus grand. Et si je ne saisis pas pleinement la grâce qui m'est offerte, si je ne saisis pas pleinement le don de Dieu, eh bien ma louange est terne et ma gratitude vis-à-vis de Dieu n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Je ne profite pas des dons et je n'utilise pas tous les dons que Dieu met à ma portée. Je ne réalise pas que j'étais une fleur coupée et que j'ai été à nouveau plantée, enracinée dans la présence de Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous devons consacrer chaque jour du temps à Dieu, par la lecture de la parole, par la prière, mais nous souvenir combien nous sommes au bénéfice de la grâce aujourd'hui et chaque jour, parce que c'est quelque chose que j'oublie. Et si je l'oublie, eh bien, ça peut être un frein à ma vie chrétienne. un frein au développement de ma vie chrétienne, ou au contraire un frein à l'embrasement de ma foi. La grâce devrait être le sujet de gratitude numéro un. Et je ne peux pas comprendre pleinement l'amour de Dieu si je ne comprends pas que j'ai échappé à la mort. J'ai même échappé à quelque chose de pire que la mort physique. J'ai échappé à la mort spirituelle, au fait d'être définitivement et irrémédiablement séparé de Dieu. Alors comme je l'ai dit, c'est normal que je n'appréhende pas toutes les subtilités, les richesses de la grâce. C'est tellement énorme, c'est tellement peut-être complexe. Mais ma responsabilité est quand même d'essayer d'en comprendre le maximum, de comprendre ce que le Seigneur met à notre portée. Et c'est ce qui est dit au verset 7 aussi dans Éphésiens. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Mon esprit humain est limité, mais la promesse de Dieu est que je comprendrai dans les temps à venir lorsque je serai physiquement avec lui. Je comprendrai toute l'étendue de la richesse de la grâce. Oui, mais comment je fais, moi, si je dois attendre d'être auprès du Seigneur, justement, pour tout comprendre? Ce n'est pas facile. Je crois que la réponse est au verset 8. Je crois que c'est le verset qu'a lu Patrice, d'ailleurs, ce matin. « En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. La grâce est le don de Dieu, et la foi est l'acceptation de ce don. La foi est l'acceptation de ce don. C'est d'accepter de le recevoir, ce cadeau, sans tout comprendre. Et si j'ai compris que Dieu est riche en compassion, alors je peux lui faire confiance, je peux décider de lui dire oui. Je ne comprends pas tout, mais j'accepte que d'être dès maintenant avec Dieu en Jésus-Christ. Alors je peux prendre le risque de la confiance, parce que je sais que Dieu est riche en compassion. J'ai failli dire tous les mots pendant l'ordre. C'est un autre échauffement plus tard. Voilà. Dieu est riche en compassion. Et pour terminer sur cette partie, avant d'attaquer la troisième, je vous laisse deux versets que je ne vais pas commenter simplement, que je vais lire avec vous pour alimenter votre réflexion sur le sujet de la grâce. En Colossiens 2, verset 12, « Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Et un deuxième verset que l'on connaît bien dans Hébreux 11, verset 1, si on connaît un peu la Bible, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Et ce que j'aimerais vous laisser à propos de cette partie, c'est que nous profitons de la grâce à la hauteur de notre foi. Si nous avons une petite foi, une petite confiance en Dieu, eh bien finalement nous voyons qu'une partie de la grâce. Si notre foi est plus grande, eh bien nous voyons davantage la totalité, l'immensité, la réalité de la grâce. Donc je vous encourage à faire grandir notre foi en faisant confiance toujours plus au Seigneur. Pour terminer, enfin pas pour conclure encore, mais en troisième partie, les deux derniers versets, versets 9 et 10, Éphésiens 2, et je l'ai intitulé « Les conséquences de la grâce ». Et en relisant ce matin-là, je me disais que ce n'était pas un très beau titre, « Les conséquences de la grâce ». Je préférerais dire maintenant les fruits de la grâce. Et comme je l'ai dit, eh bien, le drame de l'humanité, le drame de l'homme, eh bien, est d'être coupé de la présence de Dieu. Il a été chassé du jardin, il n'est plus en Dieu. Et nous avons vu que quand je remets ma vie à Jésus, eh bien, je peux retisser des liens justement avec le Père et à nouveau entrer dans sa présence. Mais si l'homme n'est pas conscient de la grâce, je crois qu'il peut développer beaucoup d'énergie pour essayer de retisser lui-même ce lien qui a été coupé. Et retisser ce lien qui a été coupé, eh bien, ça peut être à se lancer dans des projets, avoir des comportements pour chercher à être aimé, pour chercher à être reconnu, pour chercher à être pris en compte. Et on peut, encore une fois, avoir beaucoup de comportements, enfin, des comportements, mettre en œuvre de grands projets pour chercher justement à être aimé et chercher à être reconnu. Et c'est une façon, je pense, d'essayer de retisser ce lien qui a été coupé avec le Seigneur. Ne pas chercher à être aimé de Dieu, mais aimé et reconnu des hommes. Et le verset 9 nous met en garde sur cette démarche. Et les chrétiens ne sont pas à l'abri de ça non plus, d'essayer soi-même de retisser le lien qui a été coupé, alors que le Seigneur pour nous a tout fait. Le verset 9 nous met en garde. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et c'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Et c'est même arrivé aux disciples. Ils marchaient sur le chemin et puis ils se retrouvent à la maison à la fin de la marche avec Jésus. Et Jésus leur dit « Mais de quoi vous parliez en chemin ?» Et les disciples sont gênés parce qu'ils n'osent pas répondre, parce que vous saviez de quoi ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de parler de savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Ouais, c'est Marc 9, verset 34. En chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Et accepter le don de la grâce, c'est accepter que ma valeur me vient de cette nouvelle identité en Christ et non pas de ce que je pourrais accomplir. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Et c'est le sang versé par le Fils de Dieu sur la croix qui fait ma valeur. Alors bien sûr que c'est agréable d'être reconnu pour ce que l'on fait. Et c'est vrai qu'un merci, un bravo, encourage et pousse à avancer. Mais si je fonde mon identité sur cette reconnaissance-là, eh bien il y a un problème. Parce que mon identité, elle est uniquement d'être en Christ. Elle est uniquement par le fait d'être assis dans les lieux célestes auprès du Père. Et lorsque, à propos des fruits de la grâce, il y a quelques semaines, quand je réfléchissais à cette prédication, eh bien, Patrice a fait une prière et il a remercié Dieu pour la grâce et la grâce qui apportait le repos. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un fruit de la grâce que j'avais envie de vous partager ce matin. La grâce apporte le repos. Et je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Bien sûr que je vais donner le meilleur de moi-même quand je vais m'engager dans un projet, évidemment. Mais je ne joue pas ma vie à chaque fois. Je ne joue pas mon identité. Je ne le fais pas pour être reconnu. Parce que mon identité, elle est d'abord en Christ. Elle est d'être unie en Christ. Et je ne compte pas justement sur les projets, sur mon comportement pour être reconnu et apprécié. Et je n'ai plus besoin de chercher à reconstituer le lien qui a été coupé. Ça, c'est déjà fait. Dieu l'a fait. Christ l'a fait en mourant sur la croix. Alors, je peux oser faire des choses. Je peux oser entreprendre. Je peux oser prier aussi pour lui demander quelles sont les œuvres bonnes dans lesquelles il veut que je m'engage. Mais pas pour me servir, c'est-à-dire pour recueillir de la reconnaissance, mais vraiment pour le servir. Il y a deux points aussi, comme fruit de la grâce, que je cite simplement, sans les développer. Un des fruits de la grâce devrait, chez nous, développer de l'humilité. De l'humilité parce que moi, je n'ai rien fait. Je dois tout à Dieu. La grâce est justement un cadeau. Et ça devrait, encore une fois, développer chez nous de l'humilité. La grâce devrait aussi produire chez moi de la fraternité. Car nous sommes tous de même nature, nous avons tous parcouru le même chemin et nous avons tous la même valeur. Nous sommes tous unis en Christ et nous sommes cachés en Dieu par Jésus-Christ et nous sommes, encore une fois, tous frères et sœurs. Et c'est pour ça que ça devrait développer de l'humilité, de la fraternité. Pour conclure, je voudrais dire que c'est vrai que j'ai bien conscience que même si je suis, ma nature est nouvelle, si je suis uni en Christ, je constate bien sûr tous les jours que je continue de pécher. Et la grâce n'est pas une permission non plus pour continuer à m'opposer à Dieu. Et pourtant, je continue à le faire. Et nous sommes dans cette dualité qui est à la fois tournée vers Christ et en même temps retenue par le péché. Et c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 24 et 25. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort tourné vers le péché ? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, c'est-à-dire intellectuellement, j'ai envie de me tourner vers Dieu, j'ai envie de lui obéir, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Et nous sommes dans cette tension, à la fois tirés vers le haut, parce que nous sommes attirés par Dieu et nous avons bien compris que nous étions une nature nouvelle, et en même temps tirés vers le bas, parce que notre nature est pécheur. Et il y a cette ambiguïté-là, cette ambivalence-là qui est difficile. J'aurais aimé aussi vous parler de l'Esprit Saint dans cette prédication. Esprit Saint qui est une aide précieuse pour nous aider, bien sûr, à nous détourner du péché. J'aurais aimé aussi vous parler du pardon. Le pardon de Dieu, j'en ai parlé, mais j'aurais aimé aussi vous parler du pardon que nous, on demande à Dieu, justement, de cette nature pécheresse pour à nouveau revenir vers lui. Et comme Adam et Ève, eh bien, je suis libre de mes choix, d'obéir à Dieu ou de m'opposer à lui. Et même si je sais que je suis spirituellement assis dans les lieux célestes avec Christ, eh bien, j'ai encore à apprendre l'obéissance. Et l'Esprit-Saint est encore une fois là pour m'aider à obéir, afin de ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Même si je sais que j'y arriverai jamais complètement. Mais comme je sais que j'y arriverai jamais complètement, alors j'en suis conscient et je peux encore plus exprimer à Dieu ma gratitude de m'avoir fait le don de la grâce. Amen.